Merci à Radio Okapi. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, fidèles auditeurs de Radio Okapi, membres de la presse et chers collègues du groupe de communication des Nations Unies, bonjour et bienvenue à la conférence de presse hebdomadaire des Nations Unies de ce mercredi 25 janvier 2017. Au menu de notre rencontre d'aujourd'hui, nous vous ferons le point de la visite de travail effectuée dans la province du Haut-Katanga par M. David Gressly, le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en RDC, chargé des opérations à l'est du pays, mais aussi de celles conduites à Lubumbashi par le commandant adjoint de la force de la MONUSCO, le général Bernard Comens. Nous vous parlerons également de la réouverture du pont Similiki dans la région de Beni. Et pour conclure, un compte-rendu vous sera fait sur les séances de sensibilisation menées par la police des Nations Unies au profit des populations de Uvira concernant la stratégie opérationnelle de lutte contre l'insécurité dans cette ville. À mes côtés ici à Kinshasa, Florence Marshall, coordinatrice du groupe de communication des Nations Unies, qui revient en pleine forme après des vacances bien méritées, nous fera comme d'habitude un compte-rendu exhaustif des activités menées par l'équipe EU au cours de la période considérée. Et à partir de Goma, il n'est pas là malheureusement pour des raisons techniques, le lieutenant-colonel Serge Hack devrait nous faire nous brosser un tableau sécuritaire qui prévaut dans les différentes provinces et pays, mais en lieu et place, je le ferai. Et notez aussi que nos collègues de l'équipe pays présents dans cette salle pourront répondre à vos questions. Et en ce nouvel an, c'est avec bonheur que nous accueillons sur ce plateau M. José María Aranaz, le directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, qui renoue ainsi avec la tradition qui consiste à partager avec nous les principales tendances concernant les violations des droits de l'homme observées au cours de l'année 2016. Mesdames et messieurs, voilà donc ainsi fixé le cadre dans lequel se dérouleront nos échanges de ce jour. Sans tarder, notez que suite à son séjour dans la province du Tanganyika du 18 au 20 janvier 2017, l'ayant conduit successivement dans les territoires de Manono, Moba et Pueto, M. David Gressly, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies adjoint, a poursuivi sa visite de travail dans la province du Haut-Katanga, précisément à Lubumbashi, où il est arrivé le 21 janvier 2017. À la tête d'une forte délégation de la MONUSCO, le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies a entrepris dès le 23 janvier 2017 à Lubumbashi d'intenses activités essentiellement focalisées sur l'examen de la situation sécuritaire, politique et électorale qui prévaut dans la province du Haut-Katanga et en République démocratique du Congo en général. Au cours de cette visite, M. Gressly a conféré avec les autorités provinciales, administratives et militaires, sans oublier les membres de la CENI du Haut-Katanga, de la société civile, de la majorité mais aussi de l'opposition, et le personnel de la MONUSCO et des agences du système des Nations Unies. Donc restons dans cette province qui focalise présentement l'intérêt de la MONUSCO pour vous relater la visite de travail effectuée par le commandant adjoint de la force de la MONUSCO, le général Bernard Comens, arrivé à Lubumbashi le 23 janvier 2017. L'objectif de sa mission, selon ses propres termes, est d'évaluer l'effectivité du déploiement des troupes de la MONUSCO dans les zones d'intervention, mais aussi et surtout, renforcer les relations avec les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC. Les entretiens qu'il a eus avec les autorités tant civiles que militaires ont surtout porté sur les tensions violentes et récurrentes entre les populations Twa et Bantou dans la province du Tanganyika, qui de facto impacte négativement dans la province du Haut-Katanga avec l'arrivée massive des déplacés à Pueto. Nous passons maintenant aux activités des composantes de la MONUSCO pour vous dire que le 23 janvier, le chef de bureau de la MONUSCO de Beni Boutembo Lubero a participé aux côtés du ministre des Infrastructures et des Travaux Publics, accompagné du gouverneur de la province de Nord Kivu, à la cérémonie de réouverture du pont Similiki qui s'est effondré le 2 janvier 2017 sous le poids d'un camion surchargé. Les autorités congolaises ont exprimé leur gratitude à la MONUSCO pour la diligence de son appui à l'Office des routes, permettant ainsi la réouverture rapide du pont Similiki, cordon ombilical favorisant la circulation des personnes et des biens dans cette région. Passons aux activités de la police MONUSCO pour vous dire que dans le cadre de la promotion de la police de proximité initiée au sein de la police nationale congolaise avec l'appui de la police de la MONUSCO, la coordination de la CELUB, stratégie opérationnelle de lutte contre l'insécurité à Uvira, a mené tout au long de cette semaine plusieurs séances de sensibilisation des populations locales dans le but de vulgariser ce concept et de partager les numéros verts mis en service pour mieux lutter contre l'insécurité. Pas moins de 20 séances ont aussi été organisées par la police MONUSCO Uvira au profit des jeunes, des étudiants, des motards, des commerçants, transporteurs et des artisans. Ces différentes interactions avec les populations ont permis de les éclairer davantage sur l'importance cruciale de leur collaboration avec la police nationale congolaise dans le cadre de la mise en œuvre de ces stratégies opérationnelles, car pour la MONUSCO, la lutte effective contre la criminalité et l'insécurité nécessite la pleine collaboration des populations civiles. Au cours de ces séances de sensibilisation, la police MONUSCO a assuré la vulgarisation des deux numéros verts RTL et Vodacom gracieusement mis à la disposition du public pour alerter de manière proactive les forces de sécurité congolaises. Voilà donc pour tout pour les informations concernant la MONUSCO. Vous aurez plus d'informations dans le verbatim qui sera distribué à la fin de cette conférence de presse et sur le site de la MONUSCO. Alors, sans tarder, je passe tout de suite à la deuxième partie qui concerne la présentation de l'équipe pays qui nous sera aujourd'hui faite par Florence Marchal qui est de retour de longues vacances et en pleine forme pour répondre à toutes vos questions. Florence, bonjour. Bonjour. Vous avez le micro.
Bonjour Félix et bonjour à tous. Je vais commencer par un point sur le soutien des Nations Unies à la Commission électorale nationale indépendante dans le cadre des opérations de révision du fichier électoral. À ce jour, la MONUSCO a déployé l'intégralité des équipements mis à sa disposition par la CENI vers les hubs de Bukavu, Bunia, Gemena, Goma, Kalemie, Kamina, Kindu, Lubumbashi, Bujimai et Bandaka, ce qui représente près de 1600 tonnes de matériel électoral composé de kits bureautiques, de kits d'enregistrement, de cartes d'électeurs et de générateurs qui ont été transportés par des avions cargo de la MONUSCO sur plus de 100 vols. Par ailleurs, 16 hélicoptères ont déjà effectué plus de 150 rotations entre les hubs et les antennes afin de livrer le matériel dans des zones difficiles d'accès. Pour rappel, le soutien de l'Organisation des Nations Unies au processus électoral est décrit dans la résolution 2277 du Conseil de sécurité. Il s'agit d'apporter une assistance technique et un soutien logistique aux opérations de révision du fichier électoral actuellement en cours. Depuis ce lundi, OCHA, le Programme alimentaire mondial, le Haut Commissariat aux réfugiés et d'autres organisations humanitaires effectuent une mission d'évaluation dans les territoires de Manono, dans le Tanganyika, et de Mitwaba et Pweto, dans le Haut-Katanga, afin d'évaluer les besoins des déplacés et de coordonner la réponse humanitaire entre les deux provinces. Les résultats de cette mission, qui se terminera samedi, seront communiqués dès que possible. Le conflit intercommunautaire qui sévit dans le Tanganyika ne cesse en effet de prendre de l'ampleur. Sur près de 385 000 personnes déplacées, plus de la moitié l'ont été au cours des trois derniers mois. Les besoins humanitaires sont immenses dans tous les secteurs, la priorité absolue restant la protection des civils et la fourniture des besoins primaires tels que la nourriture, des soins de santé et un accès à l'eau. Un mois après les inondations qui ont endeuillé la ville de Boma dans la province du Congo central, causant la mort de 27 personnes et de nombreux dégâts matériels, près de 3000 ménages ont reçu de l'assistance d'organisations humanitaires et des autorités provinciales, ainsi que de certaines entreprises privées et de citoyens congolais. Des vivres, des produits pharmaceutiques et d'autres biens de première nécessité ont ainsi été distribués ces dernières semaines. Une seconde assistance est prévue ces jours-ci. Que ce soit au Congo central ou dans d'autres provinces, ces dégâts soulèvent la question de la préparation des provinces à la gestion des catastrophes et autres sinistres naturels. Le Haut Commissariat aux réfugiés, le HCR, a diffusé hier un communiqué dans lequel il annonce que le nombre de réfugiés en RDC s'élève à 452 000, parmi lesquels 60% sont des enfants. Ceci représente une augmentation de 69 000 personnes par rapport à l'année précédente. Les raisons principales de cette augmentation sont les afflux en province du Soudan du Sud et du Burundi. Cette question sera prochainement abordée ici même par la représentante régionale du HCR. Des organisations paysannes regroupant un millier de producteurs de Kalengera et Tamugenga dans le Nord Kivu viennent de recevoir de la part du PAM et de la FAO des infrastructures communautaires. Il s'agit de deux entrepôts, deux boutiques d'entrants agricoles, deux abris pour des unités de transformation et deux aires de séchage. Et ceci dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'appui aux chaînes de valeur des petits producteurs agricoles, connu aussi sous le nom d'achat pour le progrès. Outre la mise en place des infrastructures communautaires, le PAM et la FAO ont organisé des séances de renforcement des capacités des bénéficiaires qui ont porté notamment sur la production, la transformation et la gestion de la qualité et la commercialisation des produits en vue de la relance agricole dans ces zones et du renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Il faut noter que ce projet a reçu le soutien financier de la Belgique. Enfin, en réponse à la question posée la semaine dernière par l'ACP sur la cartographie de présence d'engins explosifs, le service de la lutte antimine des Nations Unies, UNMAS, nous précise que depuis janvier 2016, c'est le gouvernement de la République démocratique du Congo, soutenu par UNMAS, certes, mais c'est lui qui est responsable de la coordination de toutes les activités de déminage humanitaire à travers le Centre congolais de lutte antimine. Le bilan de dépollution à ce jour est positif et la RDC avance vers l'objectif zéro mine. 65% des zones suspectées dangereuses identifiées ont en effet été dépolluées et remises à disposition. Les zones restantes à déminer sont les provinces du Nord et Sud Bangui, Équateur, Tchopo, Tchouapa, Bawele, Wale, Ituri et Kassai. Il reste encore à déterminer si les territoires d'Aru, Dungu et Beni sont contaminés. Alors, si ce rythme est maintenu, la RDC pourrait être entièrement débarrassée de la menace posée par les mines et se conformer aux exigences de la Convention d'Ottawa avant la date limite du 1er janvier 2021, sous réserve de la disponibilité de fonds suffisants pour mener ces opérations de dépollution.
Tous nos remerciements à Florence pour ces informations partagées avec nous, qui d'ailleurs sont très fournies pour marquer quand même sa grande forme, ce grand retour. Sans tarder, nous vous présentons d'abord nos excuses pour ces désagréments d'ordre technique avec Goma. Aujourd'hui, la présentation de la situation sécuritaire se fera à partir d'ici. Juste pour vous dire que dans la ville, province de Kinshasa et dans les autres provinces situées à l'ouest de la République démocratique du Congo, la situation sécuritaire a été jugée stable durant la semaine écoulée. Dans les provinces de Haut et de Bawele, les troupes des forces onusiennes et congolaises engagées dans le cadre de l'opération dénommée Red Kite, cerf-volant rouge, contre l'armée de résistance du Seigneur et les RAID poursuivent leurs activités militaires contre les éléments résiduels de ce groupe armé. Dans la province de Haut et Bawele, le 18 janvier 2017, des éléments supposés appartenir à la LRA ont attaqué la localité de Kossi, située à 37 km au nord-ouest de Doruma, pillé des biens de valeur et kidnappé 3 individus. Les troupes congolaises basées dans la région ont été alertées dans le but de traquer les assaillants. Dans le Bawele, des présumés éléments de la LRA ont, pendant la période sous examen, fait incursion dans la localité de Soukadi, située à 85 km au nord-est d'Ango, piller des biens de valeur et kidnapper 11 individus. Alertés, les troupes congolaises ont immédiatement initié la traque de ces rebelles dans le but de mettre un terme à leurs activités négatives et libérer les otages. En Ituri, les forces coalisées FRDC-MONUSCO maintiennent la pression militaire sur les éléments réfractaires du Front de résistance patriotique de l'Ituri et ceux du groupe Mai Mai dans le but de mettre un terme aux exactions perpétrées dans les localités situées au sud du territoire de Rumu et de Mambasa. Dans le territoire du Rumu d'ailleurs, plusieurs activités négatives initiées par des éléments réfractaires du FRPI ont été contrées par les troupes congolaises déployées dans cette partie de la province. C'est ainsi que, le 22 janvier 2017, les troupes FRDC ont, avec le soutien déterminant des casques bleus bangladais de la force de la MONUSCO basée à Aveba, repoussé des éléments du FRPI au cours de leur tentative de pillage et d'incursion dans les localités de Badzanga, situées à 5 km au sud-ouest d'Aveba et de Nyongo. Dans le territoire de Mambasa, les forces de défense et de sécurité congolaises poursuivent avec le soutien de la force de la MONUSCO la traque des éléments du groupe Mai Mai dans le but de les neutraliser. C'est ainsi que 3 éléments armés non identifiés ont, pendant la période sous-examen, attaqué les localités de Makele, Kenumba, Makuma, situées respectivement à 17 et 19 km au sud-est de Biakato, tué 2 individus et violé 2 femmes. Informés, les casques bleus du bataillon népalais et les observateurs militaires de la force de la MONUSCO ont mené conjointement avec les troupes des FRDC des patrouilles intensives de domination de terrain dans la région affectée dans le but de traquer les assaillants et d'interdire d'autres activités négatives dans la zone. Passons au Nord Kivu, où la situation sécuritaire est demeurée volatile et imprévisible pendant la période sous examen. Dans le territoire de Beni, l'armée congolaise poursuit avec le soutien de la force de la MONUSCO les activités militaires contre l'activisme des éléments de l'Alliance des forces démocratiques ADF dans le but d'y mettre un terme. En effet, le 17 janvier 2017, Un large mouvement d'éléments de l'ADF en direction de Maïmoya a été observé dans la région de Moukoko. Alertés, les FRDC ont immédiatement projeté dans la région concernée des troupes d'intervention rapide. 4 armes AK-47 ont ainsi été récupérées. Les troupes de la brigade d'intervention de la MONUSCO basées dans la région ont été placées en alerte maximale dans le but de contrer toute activité négative perpétrée par les éléments infiltrés. De plus, la pression militaire exercée sur les éléments de l'ADF actifs dans la région de Moukoko a poussé les membres de ce groupe armé à se rendre volontairement. C'est ainsi que le 15 janvier 2017, 5 éléments ADF ont fait reddition auprès des troupes FRDC basées dans la localité de Moukoko, située à 4 km au nord-est d'Oicha. Dans le territoire de Walikale, l'armée congolaise maintient avec le soutien de la force de la MONUSCO la pression militaire sur les éléments du groupe Mai Mai dans le but de mettre un terme à leurs activités négatives. Le 18 janvier, les troupes des FRDC ont engagé des éléments du groupe Mai Mai Rahia Mutomboki Isangi dans la localité de Ungulito, située à 48 km au sud-ouest de Walikale Centre, tuer un insurgé et récupérer une arme de type AK-47. Dans le territoire de Rutshuru, les FRDC ont initié des activités militaires visant à lutter contre l'activisme des groupes armés et le banditisme et ainsi ont arrêté le 17 janvier 2017 deux éléments du groupe Maïmaï Nyatura et récupéré une arme AK-47 dans la localité de Kabizo, située à 56 km au sud-ouest de Kiwanja. Dans la région de Goma, les forces de défense et de sécurité congolaises continuent de traquer les éléments des groupes armés infiltrés dans la zone dans le but de dissuader d'autres incursions et de sécuriser les personnes et leurs biens. Le 17 janvier, la PNC a arrêté à Goma un groupe d'éléments supposés appartenir au groupe Mai Mai Corps du Christ. Au chapitre des redditions dans cette province, du 18 janvier 2017 à ce jour, 19 éléments, dont 10 des forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR, se sont rendus aux troupes des forces congolaises et onusiennes déployées dans la province. Nous passons au sud Kivu, où la situation sécuritaire a été jugée globalement stable et sous le contrôle des forces congolaises et onusiennes. Dans cette province aussi, des redditions ont été enregistrées, notamment deux éléments du groupe Mai Mai Kifuafua et Rahia Mutomboki Puma se sont rendus le 17 janvier 2017 aux forces de défense et de sécurité congolaises déployées respectivement à Kalehe et à Nduma. Dans le Tanganyika, l'armée congolaise poursuit sans répit les activités militaires avec le soutien de la force de la MONUSCO dans le but de mettre un terme à la récurrence des tensions interethniques rapportées entre les membres des communautés Luba et Tua et Pygmé. Enfin, la force de la MONUSCO aura mené 1777 patrouilles armées, dont 636 nocturnes, et avons fourni 115 escorts pendant la période sous examen. Et je vous remercie de votre attention. Et donc, sans tarder, nous restons ici à Kinshasa pour prendre contact avec notre ami José María Aranaz, qui nous fera aujourd'hui le point des principales tendances observées en 2017 concernant les violations des droits de l'homme. Bonjour José, bienvenue encore parmi nous, comme d'habitude. La parole est à vous.
Merci beaucoup, Félix. Et bonjour aux amis de la presse et aux auditeurs de Radio Capi. Et premièrement, et félicitations au Léopard pour la victoire hier.
Magnifique.
Comme Félix a dit, nous sommes prêts à présenter les rapports de la tendance des violations des droits de l'homme et la situation des droits de l'homme à l'RDC dans l'année passée qu'on a déjà accompli. Le BCNUDH a documenté une augmentation exponentielle très préoccupante dans le chiffre des violations des droits de l'homme documentées qui représente une augmentation de 30% par rapport à l'année 2015. Le bureau a documenté 5190 violations des droits de l'homme. Les agents étatiques on était responsable de la majorité, 64% des violations commises par les agents étatiques, avec 480 victimes d'exécution extrajudiciaire au sommaire commises par les agents étatiques. La PNC était le même auteur des violations parmi les agents étatiques, avec 30% suivi par la FRDC et l'ANR. Parmi les groupes armés, et ils ont été responsables de 1871 violations dans les territoires affectés par les conflits, 1009 civils ont été assassinés dans les territoires affectés par les conflits, la grande majorité par les groupes armés, 718. 348 adultes ont été victimes de violences sexuelles liées au conflit, parmi lesquels 92 par agents étatiques. Par rapport au espace démocratique, nous avons documenté une augmentation très, très élevée des violations des droits de l'homme liées au processus électoral, au espace démocratique. Le bureau a documenté 1102 violations des droits civils et politiques qui représentent une augmentation de 4 fois par rapport à la chiffre documentée dans l'année 2015. Au moins, dans le cadre de la lutte contre l'impunité, au moins 167 membres de l'FRDC et 59 membres de la PNC ont été condamnés pour violation des droits de l'homme. Aussi, le Bureau conjoint des Nations Unies a organisé, bien nous-mêmes, ou en partnership avec les institutions nationales ou locales, nous avons organisé 220 activités de sensibilisation ou bien de formation dans l'année passée.
C'est tout de notre côté. Merci à José Maria pour toutes ces informations.